Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans On vous en parle, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité, nous découvrirons ensemble les news qui ont tenu toute notre attention. L'invité du journal cette semaine est Thomas Pluvinage. Il est responsable commercial des salons vin et gastronomie organisés par l'agence GL Event. 14 rendez-vous répartis en France, il répondra aux questions de Philippe Demoulin. Quant à Alain Moreno, notre correspondant en région Rhône-Alpes, il a rencontré Valérie Ventièse, responsable stratégie de marque et communication chez Saint-Jean. Une rencontre qui a laissé sans voix notre correspondant.
Une info, un message, un coup de cœur, retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Ce que nous avons retenu de l'actualité cette semaine, alors que 80% des Français aimeraient qu'un produit sur deux en grande distribution soit fabriqué par une PME française, Système U se dote d'un site dédié pour favoriser la relation commerciale entre l'enseigne et ses acteurs incontournables que constituent les TPE-PME. Dans une première phase, l'objectif du portail est d'orienter celle-ci vers les bons interlocuteurs locaux, régionaux ou nationaux, afin d'évaluer l'opportunité d'une collaboration avec Système U. Le projet vient renforcer les nombreux engagements de Système U afin d'encourager une production de proximité et de soutenir le tissu économique local en promouvant les circuits courts et les partenariats avec les filières et en offrant des débouchés aux fabricants. Ceux-ci représentent 77% des fournisseurs français de l'enseigne, en progression constante pour atteindre 80% en 2023. Pour Dominique Amirault, le président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, cette initiative est une première pour une enseigne et une véritable avancée en faveur de la différenciation PME. Pourquoi le cordon bleu est-il devenu le symbole de la malbouffe à la cantine scolaire lyonnaise? Pour répondre à cette question, la municipalité a expliqué que le cordon bleu était le fer de lance des produits ultra transformés et à ce titre, il n'a plus de raison d'être dans les menus des élèves lyonnais. La municipalité a donc décidé de ne plus proposer de cordon bleu dans les cantines scolaires de la ville dès 2022. Il faut savoir qu'un cordon bleu ne devrait nécessiter que 5 ingrédients, une escalope, du fromage, du bacon, de la chapelure et un œuf, alors que les cordons bleus proposés par les industriels en comptent environ une trentaine. Affaire à suivre. Lors de son assemblée générale qui s'est tenue le 24 septembre dernier, le Conseil national des appellations d'origine laitière a présenté sa démarche d'AOP durable. Les appellations devraient toutes contenir d'ici à 2030 18 mesures de durabilité dans leur décret officiel. Inédite, la démarche devrait aboutir à des cahiers des charges adaptés à chaque territoire. Pour Michel Lacoste, le président du Conseil national des appellations d'origine laitière, l'objectif est de traduire dans les appellations toutes les démarches présentes historiquement sur les externalités positives déjà effectives des AOP, de la production à la transformation, mais non valorisées. Cependant, elle permettra aussi de généraliser les pratiques durables à l'échelle des territoires, là où ce n'était pas le cas. Ce que nous retiendrons encore dans l'actualité, les yaourts dans le collimateur de l'association CLCV. Cette dernière dénonce la teneur de sucre trop élevée dans les yaourts et les desserts à base de lait et demande aux industriels d'améliorer les recettes, réduisant au maximum la quantité de sucre ajouté et l'utilisation d'additifs et d'arômes. En outre, l'association pointe la présence parfois trompeuse de beaux fruits bruyants sur les pots de yaourt, ne contenant en moyenne que 8% des fruits. On célèbre en cette année 2021 le centenaire du restaurant La Mère Brasier, première femme qui décrocha 2 fois 3 étoiles au guide Michelin. Elle est devenue la divinité protectrice de la cuisine lyonnaise, mais également de la gastronomie française. Enfin, notez que du 28 au 30 octobre, le concours San Pellegrino Young Chef accueillera à Milan tous les candidats et les passionnés de cuisine pour la grande finale. 48 jeunes chefs gagnants régionaux et les 12 chefs mentors seront présents durant ces 3 jours, au cours desquels se dérouleront les épreuves de concours de cuisine. La France sera représentée par le chef Alexandre Alves Pereira.
Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Mangez Vrai sur Facebook.
Lutter contre le cancer du sein, ça commence par des gestes au quotidien. Réduire sa consommation d'alcool.
Pour moi, un verre d'eau pétillante.
Avoir une activité physique.
Pas d'ascenseur, je prends l'escalier.
Manger équilibré et varié.
Bye bye les frites, vive les petits pois.
Dès 50 ans, prendre rendez-vous chez le radiologue.
Allô, y a de la place pour une mammo ?
Contre le cancer du sein, la prévention, c'est tous les jours. Dès 50 ans, le dépistage, c'est tous les 2 ans.
Plus d'informations sur le site e-cancer.fr ou auprès de votre médecin. Une campagne de l'Institut National du Cancer.
Le blé, la moisson, ça me rappelle mon enfance.
Le pain, ça m'évoque les goûters chez ma grand-mère.
Mettre les mains dans la farine pour la pétrir, c'est toujours une bonne sensation en fait.
Une bonne tartine de pain bien croustillante avec un morceau de beurre dessus.
Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien, le pain.
Passion céréales, une culture à partager.
Pour votre santé, bougez plus.
Mangez Vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
L'invité du journal ce matin, Thomas Pluvinage, il est responsable commercial des salons vin et gastronomie. Nous l'avons rencontré à Vertoux, en Loire-Atlantique. Il répond aux questions de Philippe Dimoulin.
Alors nous sommes présents à la 28e édition du Salon Vin et Gastronomie de Vertoux qui se déroule dans cette salle Sèvres-et-Maine jusqu'au 4 octobre. 80 exposants partagent leur passion, leur savoir-faire dans le domaine du vin et des spécialités culinaires de leur région. Vertoux, c'est une des étapes de ce Salon Vin et Gastronomie car il faut savoir que c'est un salon qui sillonne la France entière. Et nous sommes avec Thomas Pluvinage, un des organisateurs de ce salon. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Alors est-ce que c'est simple, déjà la première question, en temps de Covid, est-ce que c'est simple d'organiser un salon? Et puis j'imagine qu'on est content de réorganiser un salon.
Tout à fait, c'est vraiment assez compliqué parce qu'il fallait répondre déjà aux contraintes sanitaires, le pass sanitaire, on avait pas mal de nouveautés, l'agilité, ça a été ça. Mais quel plaisir de se retrouver, d'avoir des producteurs qui reviennent, qui retrouvent leur public. Et ça, mais c'est un plaisir. Et là on le sent sur le salon, que ce soit les visiteurs, les exposants. C'est toutes les histoires qui sont racontées et on se régale à travers les papilles, mais aussi à travers l'histoire humaine qui se dégage à travers le salon. Ouais.
Et c'est ça, alors on va le voir parce qu'on va discuter forcément avec certains de ces producteurs qui sont là. On ne fera pas les 80 exposants ici parce que sinon on aura pour un moment. Mais voilà, c'est les histoires qui nous intéressent effectivement. Et comme vous dites, il y en a pas mal. Du coup, c'était important effectivement pour... Alors on va citer le nom de la boîte quand même qui organise...
Oui, tout à fait. Nous, c'est GL Events, on fait les salons vin et gastronomie. Ça fait depuis 37 ans qu'on fait les salons. Donc, même à travers l'histoire, je pense que sans citer tous les exposants, vous avez vu certains exposants qui sont là depuis 37 ans. Et c'est vrai qu'on a à cœur d'organiser et d'être le lien de vente en direct entre le producteur et son client.
Qu'est-ce que ça apporte, bon, à vous organisateurs, mais aux consommateurs qui viennent, aux clients qui peuvent venir découvrir et à l'exposant?
Bah, le modèle, il est simple. En fait, c'est un petit village de France. C'est le seul endroit, c'est unique, où vous pouvez venir déguster. C'est-à-dire que, avant même d'acheter, vous savez ce que vous achetez. Et c'est vrai que vous allez voir toutes les régions viticoles de France, mais même aussi au niveau gastronomie, ça va être la même chose. Vous allez pouvoir, voilà, déguster, rencontrer l'histoire. Il n'y a que des petites exploitations. Il n'y a pas de grosses exploitations. C'est-à-dire que, même avec le Covid, on s'est rendu compte que finalement, on avait besoin de transparence, de savoir qu'est-ce qu'on achète, avec qui on achète. Et là, on est en plein dedans. Et c'est que, je parlais de plaisir, mais même savoir que tout ce qu'on mange, c'est sain, c'est important. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que peut-être que les salons n'étaient plus à la mode actuellement, enfin en tout cas notre modèle économique. Et là, ça repart dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est toute une histoire humaine. J'aime bien se dire ce mot-là, mais c'est important.
Effectivement, les grandes maisons ont facilement pignon sur rue, chose que les petits producteurs n'ont pas forcément en fait. Et donc, c'est important de leur donner ça aussi.
Oui, c'est ça. Et nous, on essaie d'accompagner de plus en plus les producteurs à travers la vente en direct parce qu'ils ne seront jamais présents à travers les grandes surfaces, à travers d'autres canaux de distribution. Eux, ce qui leur importe, c'est de pouvoir vendre, évidemment, dans leur zone de chalandise, mais partout ailleurs. Et c'est vrai que... Voilà, c'est un autre moyen de connaître différents produits et d'être en plein dedans, quoi.
Alors quand on sait qu'une bouteille sur 10 était, puisque c'est en train de diminuer, vendue sur sur internet, mais sinon c'est la majorité, c'est en grande surface que les gens achètent leur vin, comment on fait pour les faire venir justement sur les salons et leur dire ben non, mais venez aussi rencontrer les producteurs et puis le supermarché c'est bien, mais bon.
C'est ça. Nous on communique et bon, déjà on avait l'historique, hein, ça fait 37 ans qu'on est là, mais c'est vrai qu'il y a aussi une nouvelle génération maintenant aussi de visiteurs qui viennent sur le salon et qui commencent à apprendre aussi à déguster ou quoi que ce soit. Pour autant, on n'oublie pas le digital parce que c'est aussi important. On est en train de réfléchir, et ça je vous l'avoue, ça va être dans les projets d'ici un an, où on pense qu'il faut savoir consommer comme là on le fait actuellement et peut-être avoir un deuxième rendez-vous, mais plus digital, où on va se faire des ventes privées, où on va être là-dedans. Donc ça, c'est une piste de réflexion où nous aussi, il faut qu'on s'adapte à toute cette crise qu'on a pu traverser, mais on n'enlèvera pas le fait de toucher, de sentir, de déguster les choses et de vraiment pouvoir comprendre tout ce phénomène-là, quoi.
Et de rencontrer des personnages aussi, parce qu'il y a des personnages chez ces viticulteurs, chez ces vignerons. Quand je disais que c'était un salon itinérant.
Oui, tout à fait. On a 22 éditions de partout en France. Alors, il faut savoir, sur nos 22 éditions, bon, on va de Biarritz jusqu'à Metz, jusqu'à Brest, jusqu'à en Normandie aussi. Mais vous allez voir sur la carte de France qu'on a, on est plus historiquement dans le Grand Ouest. Pourquoi le Grand Ouest ? Parce que c'est les seules régions où il n'y a pas de région viticole. Et on est plutôt consommateur dans le Grand Ouest que dans les autres régions. Donc on est plus historiquement là, mais c'est vrai qu'on est partout. Et dans chaque modèle, ce petit village de France, ça marche. C'est-à-dire que les Français adorent connaître leur territoire. Et ça, c'est important. Et c'est se dire, je vais connaître le territoire d'Alsace ou je vais connaître le territoire du Sud-Ouest ou, comme on dit, avec les personnages, etc., retrouver l'accent. Je vais donner une anecdote, mais des fois, je vais prendre un foie gras chez Madame Descoubet. Je prends souvent cet exemple-là, qui nous sent avec son accent du Sud-Ouest et qui est chantant, etc. On se retrouve dans nos vacances qu'on a passées dans le Périgord, si on a passé des vacances au Périgord, et ainsi de suite. C'est vraiment cet esprit chouette. Et c'est vrai que dans nos 22 destinations, vous retrouvez ça systématiquement. Ouais.
On parlait d'histoire et nous, on en a croisé des histoires passionnantes. C'est un critère de sélection, en fait, quand vous sélectionnez les exposants ici. Il faut qu'il y ait une histoire derrière.
Tout à fait, il faut qu'il y ait une histoire. Plusieurs critères sont en jeu. Un, le côté petit producteur. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais tous les vignerons qui sont représentés ici ont une petite exploitation. On ne veut pas avoir une énorme exploitation ou alors à qui ça n'appartient pas et qu'on n'a pas le patron qu'on a en face. C'est-à-dire que toutes les personnes ont les mains calleuses. Elles sortent de leur vigne, elles sont là et elles sont là en train de vous raconter votre histoire. L'histoire est hyper importante. Quand on achète son vin et que le soir on rentre chez soi, on saura qu'on a rencontré, je vais vous dire un exemple, Patrick Noël, qui est en Sancerre, qui sort de ses vendanges et qui va nous raconter tout son Sancerre blanc ou son Ménétou salon, et on sera heureux de le raconter. On sortira de là avec une culture, et c'est ça le plus important.
Bon, après, on a un petit peu de vin quand même ici, du côté de Nantes. Hein, on a notamment le Muscadet, on est à Vertou et à Valette, qui est pas loin, qui est la capitale du Muscadet. Les coteaux nantais, on les a pas vus, il n'y a pas beaucoup de Muscadet, justement.
Cette année, en fait, depuis 30 ans, on fait un partenariat avec les vignerons de Vertou. Alors, ils ont été assez sympas parce que, bon, lié à la crise sanitaire, on n'a pas pu faire l'édition en salle, comme d'habitude. On l'a fait en extérieur, sous forme de petit village. Et les vignerons de Vertou nous ont dit tout simplement, bon, écoutez, nous, on ne pourrait pas être présents. On vous laisse la priorité à tout le village de France. Pour autant, ils ne sont pas oubliés parce que lundi midi, ils viendront venir ici, ils viendront faire un petit apéritif pour faire déguster le muscadet comme ils savent le faire. Et ils sont très fiers parce que nous, si on monte ce salon-là de Vertou avec les vignerons de Vertou et leur muscadet, sans eux, on ne pourrait pas faire un salon aussi beau. Et on les écoute beaucoup, ils sont toujours là. Et là, lundi midi, ils passeront avec le maire de Vertou d'ailleurs pour nous raconter leur histoire. Et ça sera l'occasion pour les visiteurs, pour les exposants, de raconter tout ça, et ça va être encore un moment chouette.
On le voit, il suffit d'aller discuter avec ces exposants, et c'est ce que vous pourrez écouter sur Manger Vrai. Merci beaucoup Thomas d'avoir discuté un petit peu avec nous. Et puis donc on se retrouve sur plusieurs salons. Allez dans les salons, c'est ce qui vous permet d'acheter en direct et de rencontrer effectivement les producteurs directement et d'écouter leur histoire. Merci Thomas.
Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses. Alors je dépasse et j'aime en faire. Bétonne, ça irrite les braves gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais. et après je vais payer pour ça. Ouais, je vais payer pour ça. J'ai dépassé les limites aisément, facilement. Ouais, je dépasse les limites sans un problème d'éthique. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Je vais payer tout ça. Je vais me retrouver au bac. Je vais casser des cailloux en Guyane. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Après je vais payer. J'ai dépassé les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en roman. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après je vais payer.
C'était Julien Doré avec ce titre « Les limites » sur Manger Vrai, première plateforme audio dédiée à l'alimentation et aux différents univers qui la composent.
Manger Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
Faisons un tour dans nos régions et cette semaine, direction l'Auvergne-Rhône-Alpes où notre correspondant Alain Moreno est allé à la rencontre de Valérie Ventier, responsable stratégie de marque et communication chez Saint-Jean. Il est question notamment du métier de pastier. Explication.
Et oui, c'est le nôtre, avec en effet plus de 85 ans de savoir-faire en tant que pastier français. Un pastier, c'est un fabricant de pâtes, tout simplement. Et donc, on a voulu remettre au goût du jour ce nom, ce métier qui est le nôtre et voilà, dont on est fiers. En fait, il y a un vrai savoir-faire pastier français en France qui n'a rien à envier aux Italiens. Et du coup, voilà, nous, on se considère comme un digne héritier de ce savoir-faire.
Non mais attends, c'est pas possible, les pâtes, c'est l'Italie.
Eh ben non, c'est justement ce que tout le monde croit, mais non. Nous, on est là pour raconter à tous nos consommateurs que voilà, on a fait des recherches historiques qui remontent jusqu'au Moyen-Âge pour avoir la preuve qu'il y avait un vrai savoir-faire français qui était à Paris et aussi dans le sud-est de la France. Et nous, voilà, étant basés à Romans, dans la Drôme, on est complètement dans cette zone du sud-est de la France où il y avait ce savoir-faire.
Bon, on appuie sur le bouton marche arrière, on y va ?
Eh bien, allez, on y va.
On est en 1935, qu'est-ce qui se passe ? Comme ça, il se dit, tiens, je vais créer, c'est quoi, c'est une usine de pâtes ? Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer.
Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelait Émile Truchet,
Non, Émile Saint-Jean.
Non, Émile Truchet, qui était restaurateur. Donc lui, à l'époque, en 1935, on fabriquait les ravioles à la main. Donc c'était des ravioleuses qui en faisaient leur métier. Elles faisaient donc des ravioles par dizaines chez elles. Enfin, et elles se rendaient de ferme en ferme lors des baptêmes et des mariages pour faire des ravioles et les faire cuire dans les repas de famille. Donc lui, dans son café-restaurant, il en faisait un petit peu à la main, mais en fait, il y avait donc à cette époque l'industrie du cuir à Romans. Donc il y avait énormément d'ouvriers du cuir qui venaient manger dans son restaurant. Et à force, il n'arrivait plus à suivre, de faire toutes ses ravioles à la main. Donc il s'est dit, je vais mécaniser, j'aimerais bien trouver une façon de mécaniser cette fabrication. Et c'est là qu'il a, donc en effet, il s'est peut-être inspiré un petit peu des machines italiennes. Mais lui, il a eu vraiment envie de faire des petites ravioles. Enfin, vraiment, historiquement, les ravioles étaient plus petites que des raviolis italiens. Et donc voilà, il a créé la première machine à fabriquer des ravioles pour mécaniser ce savoir-faire, donc en 1935. Et donc, voilà, nous, En fait, Émile Truchet, ensuite, on a racheté son fonds de commerce. Donc, c'est pour ça que notre savoir-faire remonte à 1935 et qu'on se dit pastier français depuis 1935.
Évidemment, tout le monde connaît les ravioles dans le monde entier. On connaît même plus les ravioles que les raviolis, n'est-ce pas ?
Non, bien sûr que non. On aimerait bien. Mais malheureusement, donc nous, depuis... Alors, 1960, 80, voilà, quand on a racheté tous ces fonds de commerce, on essaie de démocratiser ce produit qu'on adore déjà donc dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc maintenant, il est bien connu en Auvergne-Rhône-Alpes, en région PACA également. Donc dans le sud-est de la France, on est plutôt bien connu, mais par contre... À Paris et dans le reste de la France, c'est encore un travail au quotidien qu'on mène pour faire connaître ce produit et notre marque.
Alors justement, pour ceux qui n'ont pas encore le bonheur, la joie de le connaître, qu'est-ce que c'est qu'une raviole ?
Alors, la raviole, donc c'est un petit carré de pâte fine, très fine, donc à base de farine de blé tendre et d'œufs, d'œufs frais. Et donc cette pâte, elle est remplie d'un mélange de comté AOP, de fromage blanc frais et de persil revenu au beurre, avec également encore un peu d'œuf et de sel. Et c'est tout. C'est vraiment une farce.
Il n'y a pas de viande ?
Non, il n'y a pas de viande du tout. C'est vraiment un produit à base de fromage. Et donc ce comté, qui est un fromage noble. Et voilà, nous, on est le premier acheteur de comté en France. Par toutes les quantités qu'on achète pour cette raviole du Dauphiné qui détient deux signes de qualité, le label rouge et l'IGP, le label rouge depuis 1998, qui valorise, qui certifie justement le respect de la tradition, de ce savoir-faire traditionnel. Et l'IGP, donc, qu'on a obtenu en 2009, qui, elle, garantit que la raviole du Dauphiné doit être produite dans une certaine zone, donc qui est comprise dans le Dauphiné, et qui, voilà, elle ne peut être produite que dans cette zone-là, autour de Romans.
Un site internet, peut-être ?
Oui, un site internet, www.saint-jean.fr, et aussi une boutique en ligne pour ceux qui habitent justement un peu loin et qui ne trouvent pas nos produits dans leur supermarché. Ils peuvent nous retrouver sur boutique-saint-jean.fr.
Manger vrai, terroir et gastronomie.
Vous voyez, il n'est pas trop tard pour déjeuner.
L'autre façon de découvrir le territoire sur Manger vrai.
C'est délicieux, délicieux.
Un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés,
c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de Dizzy.
L'orchestre s'installe des professionnels,
come on boy,
et c'est moi qui s'interpelle.
Hey Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Le nom est Davis.
Aussi, le camionnier. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington.
Ok.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'a dit,
ça y est, je transpire,
timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Yeah.
as a mill town, juggling town. Every time I jump to this six time, juggling town, to this long time, this capital town, and then in London, Scott the mill town, juggling town, Margaret Jackson, a sound comes on, a mark there's on, a capital town,
juggling.
Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie.
C'était Michel Jonas, la boîte à jazz sur Mangevrai, première plateforme audio dédiée à l'alimentation, mais pas que. Pour terminer ce journal, un rappel sur la grande opération menée par Mangevrai, hashtag obésité nos fatalités, une tournée nationale et citoyenne qui débutera au mois d'avril 2022 avec le soutien notamment de la fondation Paul Bocuse. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur notre site www.manger-vrai.net. On vous en parle, votre rendez-vous avec l'actualité est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve bien sûr pour un nouveau numéro vendredi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien.
Mangez Vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.